ça déborde. Et que ça en atteigne d'autres. Alléluia. Ne gardons pas égoïstement ce que nous avons reçu. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions le donner. Hein? Et c'est important de réaliser ces choses et de les vivre. Allez, on ouvre la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. On va lire 10 versets, les 10 premiers versets. Je titrerai mon message « Des monuments de gloire ». Énigme. Vous allez réfléchir et vous allez trouver tout au long de ce message de qui il s'agit. Alors vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a réconciliés ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Réfléchissez bien à ce que je vous ai donné comme titre au début. En tout cas, la Bible en français courant le traduit le verset 7 ainsi, ne cherche pas. C'est pas donné. Il est écrit par la bonté, dans le français courant, qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Et là, c'est un indice de ce texte. Alors, après avoir accompli cette œuvre magnifique en nous, voilà que Dieu veut nous présenté à travers, bien sûr, les siècles, comme pour dire, voyez ce que j'ai accompli. Regardez-moi. Voyez ce que j'ai accompli. Faites-les fiers. Parce que c'est ce qu'il a accompli en vous. C'est-à-dire que Dieu a pris soin de vous. Dieu vous a donné le bonheur et la grâce. Dieu vous a donné l'espérance, l'assurance. Parce que ces choses sont pour nous. Alors, en d'autres mots, eh bien, il a fait de nous des monuments. C'est nous les monuments qui manifestent, bien sûr, à ce monde dans lequel nous vivons, l'infinie richesse de sa grâce. J'ai reçu pour donner. Je suis sauvé pour servir. Amen. Je ne garde pas égoïstement ce que j'ai reçu. J'ai trouvé la perle de grand prix. Mais je veux que d'autres puissent la trouver aussi. Alléluia. Alors, dans cette portion de l'Écriture, je dirais, rapportant l'œuvre de Dieu accomplie en nous, Paul va exprimer les trois temps de la conjugaison. Il y a le passé, le présent et le futur. Et voici un petit peu la description qu'il en fait. Alors, pour le passé, c'est un passé comment ? Mais coupable. Un passé coupable. Et d'ailleurs, nous, par rapport à cela, nous étions morts. En parlant de notre passé, Paul met en évidence une vie de culpabilité. Ça, c'est notre vie passée. Nous ne le sommes plus à présent, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons rencontré et nous avons accepté celui qui a payé sur le bois de la croix, qui a payé pour nous nos crimes, nos péchés. Et il a pris le châtiment qui me revenait. Il l'a pris lui. Donc oui, à partir de là, je ne suis plus. Parce qu'au présent, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Amen. Alors, je ne suis plus. Et pour nous qui sommes là ce soir, je ne m'adresse plus qu'à moi, là. Pas plus qu'à moi, mais à vous. Eh bien, à la condition d'avoir reçu Jésus comme sauveur, c'est fini. Ces choses sont révolues. Alors, cette portion de l'Écriture s'adresse donc à des croyants qui sont passés par la repentance, dont le péché a été effacé. Si vous n'êtes pas encore engagé avec Jésus, alors, pour vous, il s'agit du temps présent. Eh oui. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui nous sommes devenus, qui nous sommes engagés, qui nous sommes prononcés, parce que nous ne sommes pas obligés de marcher avec Dieu. Mais c'est un choix. Eh bien, à partir de là, notre condition actuelle, c'est le présent. On ne vit plus dans le passé. Si vous êtes sans Christ, il s'agit d'une situation au présent. Hein? C'est comme ça. Mais si vous êtes engagé avec Jésus, c'est le passé. Vous pouvez revenir. Vous pouvez le laisser revenir. Alors, lorsqu'il parle des chrétiens d'Éphèse, et bien sûr de nous aujourd'hui, eh bien, Paul fait usage du passé. Il dit « Vous étiez morts ». Évidemment, il ne s'agit pas de la mort physique. Non, pas du tout. Elle dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois ». Donc, il ne s'agit pas de la mort physique, puisque eh bien, on continue à marcher, bien sûr, et nous étions morts comme des morts vivants, excusez-moi. Hein, je suis vivant, mais en fait, je suis dans la mort. Puisque ma destinée, c'est la perdition éternelle, tant que je n'ai pas Jésus. C'est comme ça. Hein. Alors, il y a dans la Bible deux mots qui, s'ils sont compris, nous ouvrent le message du bonheur. Le message de la délivrance, le message de la liberté, le message de la vie. Les mots sont « mort » et « vie ». D'ailleurs, il y a un texte qui le dit, hein. « Choisis la vie afin que tu vives ». Donc c'est clair, c'est un choix. Ceux qui sont chrétiens aujourd'hui étaient autrefois spirituellement morts. Maintenant, par la grâce de Dieu, eh bien, ils sont devenus vivants. Et dans son prologue, Jean dit ceci, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et dans sa première lettre, il reprend les mêmes propos. 1 Jean chapitre 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Qui croit au nom du Fils de Dieu? Levez la main. Et là, vous êtes en train de dire, « Moi, j'ai la vie éternelle. » C'est ça que vous êtes en train de dire. Hein? Eh oui, parce que vous avez reçu la vie, vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous vous êtes engagé, vous avez obéi à la parole de Dieu. Oui, eh bien, puisque vous croyez au nom du Fils de Dieu de cette manière-là, vous avez la vie éternelle. Alors, savez-vous que nous vivons dans un monde, excusez-moi pour les termes de ce soir, hein, dans un monde de morts vivants. Ils vivent, ils travaillent, sans se soucier de Dieu. Dieu est absent, bien sûr, hein, de leur vie. Ce sont donc des morts vivants et nous étions, il faut se rappeler, on ne peut pas les juger, hein, mais nous étions de leur nombre. J'en faisais partie. Alors la vie, elle commence quand? Eh bien, elle commence avec Jésus. Les gens du monde peuvent avoir de belles apparences, même de grandes richesses, sembler être heureux. Mais comme dit la Bible, « Nul on est venu sur terre, nul on repartira. » Et on a besoin de se bâtir un trésor. Donc c'est tout à fait autrement. Donc à partir de là, eh bien, puisqu'ils n'ont pas la vie, puisqu'ils n'ont pas le Seigneur, ce sont des morts vivants. Alors deuxième chose, c'est que nous étions diaboliques. Oh, c'est quoi ce soir? Mais il faut croire que nous l'étions quand nous voyons un petit peu les pensées meurtrières qui dominent le monde dans lequel nous vivons. Et ce qui dominait notre vie auparavant. Je sais d'où j'ai été tiré. Je sais quels étaient mes sentiments avant de connaître Jésus. Je le sais. Mais je prends simplement le verset 2 que nous avons lu tout à l'heure d'Éphésiens. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je vivais comme rebelle. Oh, je ne suis pas le seul, hein. Eh oui, on vivait comme cela autrefois. Alors, en réalité, notre monde est composé de deux familles uniquement. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et c'est par là, eh bien, que nous se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par là. Celui qui est de Dieu, comment il fait? Pratique pas le péché. Quand on veut l'inviter à le pratiquer, il dit, non, non, je me refuse à cela. j'appartiens au Seigneur. Il le dit. Et il se démarque ainsi, bien sûr. Hein. Alors, Paul dit ceci, nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Oui. Alors, après être nés dans la famille du méchant, parce que c'est cela, quand nous devenons chrétiens, nous passons par cette étape, nous naissons de nouveau. Mais cette fois, nous naissons dans une autre famille, la famille de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dit, Jean 3, 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème était un peu perplexe, il réfléchissait dans sa tête bien remplie, parce qu'il avait une carte de visite, le gars. Et oui, mais il ne savait pas ça, il n'avait pas compris encore. Il fallait qu'il aille jusqu'à cette rencontre personnelle, jusqu'à ce que son cœur soit bouleversé, travaillé intérieurement, et qu'il capitule, qu'il dise ce que j'ai connu, je le vois comme de la boue, maintenant j'ai besoin de Jésus. Amen. Un peu comme Paul. Hein. Alors, dans sa lettre aux Colossiens, Paul dit ceci, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Amen. Il nous a transportés, c'est fini. L'homme est esclave, je parle de l'homme général, hein. Même s'il le proclame, hein, il dit qu'il est libre, qu'il peut faire ce qu'il veut. En fait, est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut? Moi, je dirais oui. Mais il n'est pas libre de faire ce qu'il faut. Et c'est ça le problème. Eh oui, quand il dit qu'il fait ce qu'il veut, en fait, il ne veut pas faire ce qui est bien, mais il fait ce qui lui plaît, ce qui l'attire, ce qui lui fait envie. Alors il est vrai qu'il veut ce qu'il veut, il l'obtient, mais il ne fait pas ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait qu'il fasse. Et ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est tout à fait différent. C'est un peu plus haut. Vous voyez, ça nous élève un petit peu plus. Une personne non régénérée, elle est libre, mais elle est libre de faire ce que sa nature lui dit de faire. Et Paul le dit, je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Donc à partir de là, c'est pas dans la bonne direction. C'est plutôt ce qui va nous enfoncer plutôt que ce qui va nous élever. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des bonnes choses. On veut des belles choses. Amen. Exemple, ce qui est né de Dieu aime son frère. Hein, celui qui est né de Dieu, il aime son frère. Il veut plaire à sa femme. Puis inversement, bien sûr. Hein, pourquoi que les hommes, hein ? Les femmes aussi, elles veulent plaire à leur mari. Hein. Il veut la paix avec tout le monde. Il aime son prochain. Ouais, il l'aide, il le secourt. Même s'il est méchant avec lui. Ouais. Mais il veut donner une bonne image du chrétien, un enfant de Dieu, c'est ça. Est-ce que Jésus n'a pas donné son exemple, lui? Il nous a montré l'exemple parfait. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des méchants. Eh oui. La troisième chose, toujours dans le passé, c'est que nous étions dépravés. Je prends le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ah. Alors, c'est la doctrine de la dépravation du genre humain, c'est la vie corrompue, la corruption. Et nous sommes tous des pécheurs par nature, je veux dire aussi par choix. Ben oui. Certains disent, l'homme, on parle là-dessus, hein, en ce moment on en parle pas mal, l'homme est fondamentalement bon. Ben oui. Donnez-lui un environnement favorable. Donc sortez-le de ce quartier, hein. Voilà, ça veut dire ça. Hein. Une bonne éducation, assurez-vous qu'il n'ait pas faim, afin qu'il n'aille pas, hein, vous voyez. Et la bonté qui est à l'intérieur de lui va se manifester, vous verrez. C'est pourquoi je vous dis qu'il est fondamentalement bon. Alors, les humanistes enseignent cela, le New Age fait la même chose, problème. C'est là qu'il y a une contradiction, c'est que la Bible enseigne le contraire. La Bible, elle dit que l'homme a une nature de péché. Et à moins que cette nature ne soit changée, eh bien, il va mourir avec cette nature. Et je reviens à ce que je disais. Et Jésus le dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Une publicité disait, ne laissez pas vos clés dans la voiture visible. ne tentez pas ce brave garçon, parce qu'il va devenir mauvais. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il revient à dire que ces gamins de la rue sont fondamentalement bons et par votre négligence, c'est-à-dire par votre faute, voilà, vous les poussez au mal. Vous les poussez au crime. Vous vous rendez compte? Et c'est ce qu'on dit. Hein. Alors ça, c'est le raisonnement humain, bien sûr. Hein, je reviens là-dessus. Alors que la raison pour laquelle ces gamins vont essayer, je dirais, de voler votre voiture, c'est d'abord parce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas aussi bons que ce que l'on dit. Eh oui, eh oui. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il des clés? Pourquoi avons-nous des serrures? Bien à cause justement de la dépravation humaine. Hein. Nous sommes tous nés avec cette nature corrompue. Ça fait tomber un peu l'orgueil, ça. Hein. Ben oui, mais c'est comme ça. Hein. Prenez un serpent à sonnette. Dès sa naissance, vous le prenez. Vous le mettez dans un endroit favorable, avec un bon éclairage, la bonne chaleur, une nourriture excellente pour lui. Mettez-lui donc un peu de musique apaisante, douce, vous savez. Faites en sorte qu'il ait tout ce qu'il lui faut, que rien ne manque, justement. Puis quand il sera adulte, allez, avancez la main pour l'attraper. Eh oui, vous comprenez? Bon, c'est des images que je donne, mais c'est ça. Hein. Alors, vous n'avez pas besoin, comme cela, d'apprendre à un enfant à voler, à mentir. Vous n'avez pas besoin de lui enseigner à cogner ses copains. Hein. Oui, non, non, pas du tout. Hein. On ne lui enseigne pas ça d'abord. Hein. D'abord, ce qu'on fait, c'est lui apprendre à ne pas le faire. Ça, c'est interdit, tu ne le fais pas. Alors, ces petits chérubins qu'on appelle des anges, ben oui, ne leur enseignez pas la bonne voie, le bien, puis vous verrez. Hein? Laissez-les manifester leur personnalité parce que c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Allez, il faut qu'ils manifestent leur personnalité, qu'ils prouvent ce qu'ils sont. Oui, oui, d'accord. Hein, ne les privez pas, ne leur interdisez rien. Et puis vous verrez. Mais quand vous verrez, eh bien, ce sera trop tard. Eh oui, Hélène, c'est ça, ce sera trop tard. Alors, nous avons vu le passé dans la culpabilité, la mort, la nature diabolique, la dépravation. Maintenant, on va passer au présent. Après, on ira au futur. Moi, je vais pas prendre la soirée. Hein. Voilà. Alors, d'abord, c'est un présent sous la grâce. On est sous la grâce. Moi, je suis sous la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'il nous a rendus à la vie. On était morts. C'est ce qu'on était, hein, bien sûr. En tant que chrétien, quelle est maintenant, je dirais, notre condition? Eh bien, nous avons été ramenés à la vie. Nous avons devant nous une représentation de la grâce, comme dit l'apôtre Paul. Hein. Mais Dieu, donc versets 4 et 6, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une personne qui est morte spirituellement ne peut par elle-même se donner la vie. Elle ne peut pas. Un mort ne peut pas se donner la vie, c'est impossible. Hein, vous ne pouvez pas non plus eh bien, le mériter car vous êtes mort. C'est fini. Donc il n'y a, je dirais, qu'une seule solution. La solution, nous l'avons, c'est celle que Dieu nous a donnée, il nous a fait un cadeau. Il nous a donné Jésus-Christ. Il faut que Jésus vienne et qu'il vous donne cette vie. Il faut qu'il vienne et que justement, eh bien, par ce qu'il a accompli sur le bois de la croix, il fasse de nous une nouvelle créature. L'être humain n'a pas besoin d'exemple, ni d'éducation, ni même de morale évangélique. Ce qu'il lui faut, c'est un miracle. C'est un miracle. Et ce miracle, seul Dieu peut l'accomplir. C'est pourquoi il est dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui a reçu Jésus, il a la vie de Dieu. Il est passé de la mort à la vie. Et là maintenant, il vit. Il vit vraiment. Il vit en honorant Dieu. Il vit en lui plaisant. Alors, étant donné que nous sommes morts, eh bien, il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Hein, je prends le verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deuxième chose, pour le présent, et il nous a ressuscités. C'est-à-dire qu'il nous a donné la vie. Mais nous avons besoin de faire notre part. C'est-à-dire que nous avons besoin de bouger comme de sortir du sépulcre. Et de vivre vraiment. C'est-à-dire de marcher en nouveauté de vie. Regardez par exemple l'histoire de Lazare. Lazare, il était mort physiquement. Il était au tombeau. D'ailleurs, il disait, il sentait. La mort avait fait son œuvre, bien sûr. Hein. La corruption était là. Alors quand Lazare a été ramené à la vie, il est sorti du sépulcre. Mais il était encore enveloppé des vêtements de mort. Hein. Comme une momie, il était lié par cela. Il ne pouvait ni parler, ni marcher, ni faire quoi que ce soit. Et Jésus lui a donné la vie, mais après. Après, il fallait qu'il y ait du mouvement. Il fallait qu'il bouge. Alors, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Et certains, justement, ont reçu la vie. Malheureusement, ils sont encore liés par, je dirais, leur ancien langage, leurs habitudes, leurs pensées d'autrefois, et des anciennes relations, des anciennes pratiques. Jésus nous donne la vie et il nous libère aussi de notre ancienne vie pour marcher librement avec lui. Ça, c'est une réalité. Il faut que ça devienne une réalité dans ta vie. Sinon, tu vas vivre ta vie spirituelle pitoyablement. Alors que tu as reçu ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Tu as été choisi par Dieu. Amen. Troisièmement, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ça nous élève encore, hein, tout ça. Alors, il n'est pas parlé ici de quelque chose qui se produira dans l'avenir, parce qu'il est écrit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est présent. C'est au présent et c'est quelque chose d'accompli, c'est déjà fait. Déjà, ma position, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Ça fait quelques années maintenant. Mais il faut qu'on puisse le voir. Il faut que tu puisses le vivre. Et puis, il faut qu'on puisse dire de toi, mais oui, on voit que lui, il marche avec Dieu. On voit qu'il est au-dessus finalement de toutes ces choses qui m'atteignent. Lui, il est au-dessus, mais pourquoi ? Il est au-dessus parce que il marche. Il ne regarde pas vers le passé. Il n'a pas envie d'y revenir parce qu'il sait d'où il a été tiré. Et donc, il n'a pas envie de vivre ces choses qu'il vivait auparavant. Ça l'a rendu malheureux. Paul dit, il y a des choses dont je rougis encore aujourd'hui, rien qu'en y pensant. Alors, voyez un petit peu, dès notre conversion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous sommes branchés avec le royaume céleste par Jésus-Christ. Je suis branché, connecté, dites-le comme vous voulez. Hein ? Eh oui. Et comme Jésus est assis, ou il est assis au-dessus de tout, si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, si tout est sous ses pieds à lui, qu'est-ce qui se passe ? Et tout est sous mes pieds. C'est déjà fait. Des fois, nous faisons les mendiants, Seigneur, un petit peu de bonheur. On l'a déjà reçu. Vis dans le bonheur. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Bon, voilà. Alors, avec Christ, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit les choses différemment. Bon, allez, je vais faire un peu moderne. On voit en 3D. On a la 3D. On vit dedans. Hein ? Vous êtes dans l'action. C'est-à-dire, vous touchez du doigt les réalités du royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Toi, je te vois. Tu ne peux pas m'atteindre. Parce que toi, tu ne peux pas venir jusqu'à moi. Moi, je suis au-dessus de toi. Amen. Alors, être assis, c'est le repos de la foi, finalement. Amen. De là-haut, avec Christ, qu'est-ce qui se passe ? Notre cœur réagit en ayant une vision différente. Je ne vois plus les choses pareilles. Je ne me laisse plus submerger par les difficultés et les problèmes. Je permets à celui qui a pris ma vie d'intervenir. Je lui fais confiance. Je vois par-dessus, bien sûr. Hein. Alors, ce verset nous dit simplement ceci. Regardez continuellement vers le bas, où tous les ennemis sont sous les pieds de Jésus-Christ, donc sous vos pieds. puisqu'il vous a sauvé, il vous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. On va parler maintenant du futur. Un futur comment ? Eh bien, un futur dans la gloire. Parce que dans les siècles à venir, Dieu veut, je dirais, démontrer l'infinie richesse de sa grâce par nous. Enfin, je veux dire par moi, fais un peu le... Hein, par moi, Bernard. Eh oui ! Il dit donc au verset 7, « Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. » Mais pour qu'il puisse quelque part se servir de moi, de mon témoignage, et dire, comme il dit de Job, hein, « ça c'est mon serviteur. » Eh bien, il faut que je garde le cap, que je vive dans le présent pour aller vers le futur. Et que je ne repasse pas en marche arrière vers le passé. Est-ce que vous comprenez ? C'est à qui ? Qu'est-ce qu'il dit à Josué ? Toute parcelle de pied que foulera, parcelle de terrain que foulera ton pied, c'est à toi. Je te le donne. Mais à partir de là, maintenant, Josué, tu as avancé, tu as pris le pays, tu as pris cette parcelle de terrain, elle est à toi. Tu n'as plus le droit de faire un pas en arrière. Mais il te faut continuer à étendre tes cordages. Il te faut continuer à aller de l'avant. Il te faut continuer à marcher en vainqueur. Amen. Parce qu'il nous a donné de vaincre le Seigneur. Et nous sommes vainqueurs. Alléluia. Alors oui, Dieu veut faire une démonstration en manifestant ou en montrant ses enfants comme dans une sorte de parade. Et Dieu fait de nous des monuments de ce que sa grâce peut accomplir. Alors le verbe « démontrer » peut signifier, moi je le vois comme ça, afficher avec fierté. Alléluia. Vous imaginez que le Seigneur est fier de vous ? Non, il est fier de toi ! Qu'il y a une étincelle là, que ça brille ! Il est fier de toi, le Seigneur. Parfait ? Non. Même ce que Dieu t'a donné, oui, tu peux marcher en vainqueur. Tu peux aller de l'avant. Tu peux réjouir le cœur de ton Seigneur. Amen. Il peut dire, voyez l'œuvre de la grâce. Admirez, c'est mon enfant. Magnifique. Alléluia, elle est magnifique. Vous comprenez ? Mais c'est ça. Et un jour, il prendra, je dirais, tous les pécheurs que nous sommes et il dira, voyez le miracle, voyez la transformation. Ils étaient des morts vivants. Je leur ai donné la vie. Ils étaient dépravés, je les ai régénérés. J'ai fait d'eux de nouvelles créatures. Ne vous voyez plus avec l'ancienne nature. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez été recréés. Et nous étions perdus. Et c'est sa grâce qui nous a sauvés. Et la différence, je dirais, entre le pire des pécheurs et le moindre des pécheurs, c'est qu'ils étaient tous les deux perdus pareillement par sa grâce. Mais Dieu les a sauvés. Et il les a sauvés tous les deux. Amen. Quand vous entendez les témoignages, et heureusement que ce n'est pas tous comme ça, hein. Il y en a qui disent « j'ai pas volé, j'ai pas tué, j'étais pas très méchant. C'est vrai, j'ai fait quelques petites choses. Mais je peux pas dire que j'étais un grand pécheur. » Mais c'est pas grave. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas les petits ou les grands péchés. C'est le salaire du péché. Donc à partir de là, oui, il les a sauvés tous les deux, petits et grands. Eh oui, comme ça. Un jour, Dieu nous prendra, nous montrera à tous les anges, à toutes les créatures célestes, et il dira, voyez, c'est un monument de ma grâce. Ils sont là, mes témoins. Amen. Ils ne le méritaient pas, mais je les ai sauvés. Qui peut dire en levant la main ce soir, moi je le méritais. Tu méritais, toi, de te sauver ? Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Et oui, on ne méritait pas. Mais Dieu a fait de nous, ses enfants, les héritiers de son royaume. Voyez-vous comme cela ? Le passé, c'est fini. C'est fini. Le présent, aucun. Mais vivez-le bien. Vivez-le afin que Dieu puisse se réjouir. Amen. Et un jour, il vous présentera. Quelle fierté. Vous n'êtes pas fier d'être enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous, on va voter pour un président, pas maintenant, hein, dans quelques années. Mais on vote pour un homme. Le Seigneur, il a voté pour nous, individuellement. Il nous a choisis. Hein, on choisit des candidats quand on vote. Il nous a choisis, c'est-à-dire qu'il a choisi, allez, François. Hein, il a choisi aussi. Hein. Eh oui. Il nous a choisis. C'est pas magnifique. Dans le monde, peut-être on était les méprisés, laissés pour compte. Mais Seigneur, il dit, tu as de la valeur pour moi. Parce que mon fils, il a payé pour toi sur le bois de la croix. Il a livré sa vie en sacrifice. Il a versé son sang pour que toi, tu puisses vivre. Et toi, tu as dit, oui, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, fais de moi ton enfant. Fais le miracle dans ma vie. Et le Seigneur l'a fait. Et à partir de là, vivons en étant une nouvelle créature. Passez, laissons-le de côté. Vivons au présent. En aspirant au futur. Parce que Jésus va revenir. Quand ? C'est pas. Un texte dit dans la version littérale, il est le venant. C'est-à-dire qu'il est déjà en train de venir. Hein, parce qu'il est en train de préparer une place au ciel. Hein. Mais il est en train de venir. Et quand on voit tous ces bouleversements que l'on voit autour de nous en ce moment, on vit quand même des bouleversements extraordinaires, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Même les commentateurs ou je dirais les spécialistes de ces choses-là disent mais c'est surprenant et c'est bouleversant parce que ça va très vite. Jésus revient bientôt. Préparez-vous. Amen. Levez la tête, levez les yeux, levez votre cœur, je ne sais pas, mais marchez avec joie dans les traces du Seigneur. Allez vers lui, regardez vers lui. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas. Pas de compromis, non, c'est fini. Ces choses sont finies. Marche avec le Seigneur. Élève ton âme. Constamment, élève ton âme. Amen. Tu as quelque chose à régler, règle-le vite, 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 vite. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et puis avance avec lui. Fixe-le du regard. Alléluia. C'est fait, tu fais partie du royaume de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir encore interpellés ce soir. Merci de nous faire du bien. Nous avons besoin d'entendre tes choses. Seigneur, nous avons besoin de savoir que, oui, Seigneur, nous pouvons glorifier ton nom. Nous pouvons te réjouir. Tu peux nous prendre un exemple, Seigneur. Alors merci d'avance pour ce que tu vas faire au travers de ton Église ici-bas. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a de nombreux, nombreux sont tes enfants qui, Seigneur, aspirent, ont soif d'une vie nouvelle, d'une vie intense et encore plus belle, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen.